Frères et sœurs, les saints nous sont donnés comme les témoins de la miséricorde de Dieu. Alors, pour illustrer les 8 béatitudes que nous venons d'entendre, je propose de découvrir les saints qui, d'une certaine façon, illustrent chacune de ces béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. J'ai pensé immédiatement à Saint Jean-Marie Vianney, dont le portrait est dans la chair. Vous savez sans doute qu'il est né juste avant la Révolution française, en 1786. Il a fait sa première communion, qui a été retardée malheureusement à cause des événements de la Révolution, à 13 ans, des mains d'un prêtre réfractaire, c'est-à-dire d'un prêtre qui refusait de signer la constitution civile du clergé et qui encourait la peine de mort. Et il a célébré la messe clandestinement dans une petite ferme, surveillée par des fermiers. Peut-être lui-même, le prêtre était-il arrivé déguisé en fermier. Et la nuit, il a célébré la messe et Jean-Marie a reçu la première communion des mains de ce prêtre qui risquait sa vie par amour pour Jésus. Et sa vocation de prêtre est née là. Il n'y a pas d'instituteur au village, donc il n'apprend à lire que tardivement. Il a 17 ans. À 20 ans, il est accueilli par le curé d'Écully, voisin de Dardy, qui croit en sa vocation et qui va être un père pour lui dans l'éducation chrétienne, qui va lui apprendre aussi à lire et à écrire avec beaucoup de bienveillance. Et voilà qu'à l'âge de 23 ans, les armées napoléoniennes ayant besoin d'hommes chers à canon pour la guerre en Espagne, Jean-Marie est appelé sous les drapeaux. Ce qui pour lui lui pose un cas de conscience. Napoléon a envahi quelque temps avant les États pontificaux et a fait prisonnier le pape Pie VII. Jean-Marie, qui a reçu la main d'un prêtre résistant, qui risque sa vie pour le bien contre le pouvoir en place, peut-il rejoindre l'armée napoléonienne ? Un cas de conscience. On ne sait pas s'il s'est perdu en voulant rejoindre son bataillon ou s'il n'a pas voulu le rejoindre. Toujours est-il qu'il est recueilli un petit hameau qui s'appelle les Noé, près de Roanne, par des braves gens qui avaient l'habitude d'accueillir des prêtres réfractaires et il a été protégé là pendant plusieurs temps, plusieurs années. Jusqu'au moment où Napoléon déclare une amnistie qui permet que les déserteurs, dont Jean-Marie, soient amnistiés. Mais Jean-Marie a une démarche à faire pour obtenir l'amnistie, c'est d'aller voir la police. Il ne le fait pas, sans doute en conscience, parce qu'aller voir la police, c'est se faire connaître et donc être peut-être embarqué dans une nouvelle conscription militaire. Pendant ce temps-là, à la ferme de Dardy, son père, Mathieu, à la visite régulière de la police, qui lui met des amendes parce que son fils ne s'est pas rendu dans les rangs de son bataillon. Et il faut consentir à ce que quelqu'un aille remplacer ce Jean-Marie sous le drapeau de Napoléon. Son frère, François, y va pour remplacer son grand frère. Il n'est jamais revenu de la guerre. La mère de Jean-Marie en est morte de tristesse. Jean-Marie réapparaît. Son père est dans une colère qu'on peut imaginer, parce qu'à cause du choix de Jean-Marie, qu'il a pourtant fait en conscience, son frère n'est pas revenu de la guerre et sa mère est décédée. Contre le gré de son père, il rentre au séminaire, où il écrit d'ailleurs une lettre poignante, reconnaissant qu'il est un mauvais fils. Et c'est un séminariste très angoissé, qui est quand même ordonné prêtre par l'évêque de Grenoble, qui croit en son ministère. Il est envoyé par le diocèse de Lyon, dans ce qui pourrait être la Sibérie de l'époque, à savoir les dombes. Donc là, il y a beaucoup de moustiques, de marécages, c'est très malsain. Il y va, il n'est même pas nommé curé. Et là, c'est un pauvre qui aime le bon Dieu, qui veut faire aimer le bon Dieu, mais qui est lui-même traversé par ses fragilités, son angoisse, ses pauvretés psychologiques. mais qui a une telle confiance dans l'amour du bon Dieu, il dira « La miséricorde est un torrent débordé » qu'il va attirer à lui non seulement ses paroissiens qui se convertissent, mais aussi des gens de toute la France. Il passera jusqu'à 17 heures par jour dans son confessionnal, avec un charisme d'accueil, de miséricorde. Mystérieusement, cet homme, pauvre de cœur, a été un témoin de la miséricorde par ses propres pauvretés, parce qu'il a accueilli la miséricorde de Dieu dans sa fragilité. Si vous voulez en savoir plus sur cette très belle figure de sainteté, allez ce soir ou dans les jours qui viennent à Ars. Il y a un très beau spectacle qui est donné sur le procès de canonisation du curé d'Ars, qui nous révèle l'état de richesse de cet homme. Voilà. Un très beau spectacle dont j'ai vu quelques prémices la semaine dernière. Je vous y encourage. Avec quelques paroissiens, on ira d'ailleurs ce soir. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. J'ai pensé à la petite Thérèse de l'enfant Jésus, Thérèse de Lisieux. Vous savez que Thérèse, qui est née en 1873, a traversé de nombreuses épreuves. À 4 ans, sa mère décède d'un cancer du sein. Épreuve terrible pour un enfant. Du coup, elle choisit comme seconde mère sa sœur aînée. Et Pauline, qui quelque temps plus tard rentrera au Carmel. Nouvelle épreuve. Et déjà, après la mort de sa mère, Thérèse était sensible à l'excès. Elle pleurait en permanence, beaucoup de larmes. Et quand cette deuxième mère s'en va, nouveau torrent. Elle est prise régulièrement par des crises de larmes et elle tombe malade. Elle fait des hallucinations, des tremblements nerveux. Elle est alitée. Aucun diagnostic. 7 semaines d'affilée. Jusqu'au moment où ses sœurs lui proposent de se confier à la Vierge Marie. Il y a une statue de la Vierge Marie au bout de son lit. Et là, miracle. Thérèse voit le sourire de la Vierge. Elle est guérie. Elle fait sa première communion, elle a 11 ans. Première communion qui a été retardée malgré elle, parce qu'elle attendait avec impatience. Et elle dira, là, ce sont non pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Qu'il fut doux, dit-elle, le premier baiser de Jésus à mon âme. Mais elle reste hypersensible. Elle a 13 ans, la nuit de Noël 1886. Elle est à nouveau prise par sa grande émotivité parce que son père, au retour de la messe de minuit, fait une remarque un peu désobligeante à ses yeux. Elle allait s'effondrer et elle dit « J'ai senti en moi une grâce qui me rendit forte et courageuse. » Courage qu'elle a mis en œuvre parce que depuis nombreuses années déjà, elle est sûre qu'il faut qu'elle rentre au Carmel. À 14 ans, elle fait le siège de la mère supérieure qui l'envoie au vicaire général, qui l'envoie à l'évêque. Une fille de 14 ans, on ne la fait pas rentrer au Carmel. Elle dit, pas de problème, comme en famille on va en pèlerinage à Rome, je vais demander l'autorisation du pape. Elle a quand même pas mal de courage et d'audace. Et tout cela fait que, alors que son tuteur, puisque son père est défaillant, ne veut pas qu'elle rentre avant l'âge de 17 ans, que le chanoine en charge du Carmel ne veut pas non plus qu'elle y rentre avant l'âge de 21 ans, elle obtient d'y rentrer, grâce à sa persévérance, à l'âge de 15 ans. Et elle découvre ce qu'elle appelle la petite voie de la confiance dans l'amour infini du Dieu miséricordieux. Et comme vous le savez, elle a été nommée docteur de l'Église, c'est-à-dire qu'elle nous enseigne sur le chemin de la sainteté. Et morte à 24 ans, sans jamais sortir de son Carmel, elle est patronne des missions. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Alors là, figurez-vous, j'ai pensé à ma grand-mère. Je n'ai pas son portrait, je suis désolé. Ma grand-mère, une vie pas très facile. Elle est née juste avant la Première Guerre mondiale. Elle a donc traversé 2 guerres. Elle a épousé mon grand-père, une famille pas très aisée. Et c'est sa belle-mère qui tenait la maison. Donc, elle a habité chez sa belle-mère pendant de nombreuses années. pas extrêmement confortable. Avec un mari qui a quelques pieds de vigne qui sont très mal entretenus, et qui a une petite société d'assurance qui est très très mal gérée. Donc voilà, heureusement qu'il y a des poules, une vache et des cochons, parce que sinon on ne mangerait pas tous les jours. Beaucoup de tensions familiales avec son beau-frère qui veut une partie de l'héritage, etc. Bref, beaucoup de tensions. Et j'ai été touché par ma grand-mère. C'est une femme paisible, digne, très profondément croyante. Et elle m'autorisait, si je voulais, à venir frapper à sa chambre pendant sa sieste. Et je l'ai fait une ou deux fois pour lui demander quelque chose. Et ma grand-mère ne dormait pas. Elle était allongée sur son lit. Que faisait-elle ? Elle disait le chapelet, tous les jours, à l'heure de la sieste, discrètement. Personne ne le savait. Voilà. Sans doute le secret de sa douceur, une grande foi, le chapelet quotidien. Et grâce à elle, l'unité familiale a été maintenue. Heureux les doux, ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alors là, j'ai pensé, vous savez qui c'est ? Non, personne ne la connaît ici. Suzanne Aubert. Elle est née dans la Loire en 1835. Et figurez-vous qu'elle habitait le quartier, elle habitait rue Mercière. Elle fréquente donc Saint-Nizier. Ses parents, bons bourgeois, cathos de l'époque, veulent la marier, comme il se doit. Elle est sûre qu'elle a un appel à la mission qu'elle a reçue ici en étant adolescente. Elle va demander conseil au curé d'Ars, qui lui confirme son appel et lui dit une prophétie sur ce qu'elle vivra. Elle traversera les mers, elle aura beaucoup de croix. Ses parents sont très inquiets parce qu'elle ne veut pas se marier, vont donc voir le curé d'Ars qui confirme que sa vocation est une vocation religieuse. Mais ses parents sont toujours opposés à sa vocation. Elle apprend que le premier évêque français de Nouvelle-Zélande à Auckland, Mgr Pompallier, cherche des missionnaires pour partir avec lui. Il fait des voyages réguliers en France pour chercher des missionnaires. Et donc, écoutez bien, c'est incroyable, à l'âge de 24 ans, elle décide de partir avec lui sans en parler à ses parents, qui sont fermement opposés. Et donc, de mèche avec les sœurs maristes, en bas des pentes de la Croix-Rousse, de Fourvière, elle va régulièrement déposer dans une malle des vêtements. Et un jour, à 25 ans, elle organise sa fugue, elle part comme d'habitude faire sa promenade, sans rien dire d'autre à personne. Elle rejoint le cocher qui l'attend pour récupérer sa malle. Elle part au Havre, et au Havre, elle s'embarque sur un bateau avec trois autres filles qui, comme elle, entourent Mgr Pompallier pour être missionnaire à Auckland. Incroyable. 4 mois de traversée où elle est malade comme une bête, et là-bas, elle veut servir les plus pauvres, la tribu des Maoris, ce qu'elle fait, dans un contexte incroyable, vraiment difficile. Et figurez-vous qu'en 2002, une délégation de Maoris de Auckland, Nouvelle-Zélande, accompagnée par l'évêque auxiliaire d'Auckland, sont venus ici remercier le curé que j'étais, de leur avoir envoyé la première missionnaire française. C'est extrêmement touchant, évidemment. J'ai eu un discours pour me remercier, moi, de leur avoir envoyé Suzanne Aubert. Ça va ? Et alors, j'étais extrêmement touché, donc des Maoris bien en chair, tresses poivre et sel, qui rentrent en chantant, mélopées, qui pleurent, et qui viennent ici me remercier. Un petit détail amusant, pour l'anecdote. L'évêque me dit, est-ce qu'on peut prendre une photo de vous et de la responsable de la tribu Maori devant l'hôtel ? Ben, je dis, bien sûr. Il dit, attendez, une petite subtilité, c'est qu'en fait, quand elle vous salue, en fait, derrière elle, elle a tout son arbre généalogique, tous ses ancêtres, qui vous remercient. Et vous, vous avez derrière vous tous vos prédécesseurs. Et donc, ce sont ces deux arbres généalogiques, entre guillemets, qui vont se rencontrer à travers elle et vous. Et pour le signifier, si vous voulez, elle va mettre le bout de son nez contre le vôtre, qui est très chaste. Et donc, nous nous sommes retrouvés nez à nez, avec cette belle Maori, photo, et une deuxième photo pour le souvenir. C'était extrêmement touchant qu'on vienne nous remercier d'avoir envoyé la première missionnaire. Et une femme, comme on disait Thérèse d'Avila, cette femme, c'est un homme. Bon. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Et puis je pensais, vous l'avez peut-être vu en entrant sur le pilier avant la chaire, pour la béatitude suivante, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je pensais à sainte Claudine Thévenet. Elle a été baptisée ici, c'est ce qui fait que son portrait est habituellement dans la chapelle du baptistère, avec une plaque « Que Dieu est bon ». Elle a 15 ans quand Lyon est assiégée par les révolutionnaires. À l'âge de 20 ans, elle fréquente Saint-Nizier, ses frères, son prêtre, si j'ai bonne mémoire, sont arrêtés et exécutés devant ses yeux. Il me semble que c'était sur la place des Terreaux. Il y avait une guillotine qui travaillait beaucoup. Et qu'ils lui disent, juste avant de mourir, Gladys, c'est son surnom, Gladys, pardonne comme nous pardonnons. Gladys, pardonne comme nous pardonnons. Heureux ceux qui sont miséricordieux. Épreuve terrible. Elle est accompagnée par l'abbé Coindre. Une plaque rappelle qu'il a fondé ici les Frères du Sacré-Cœur. Et qui un jour lui dit, il y a deux fillettes sur le parvis qui sont abandonnées. Je vous les confie. Elle est bouleversée. Sa vie change. Et elle va fonder, un peu plus tard, ce qu'on appelle à l'époque une providence, c'est-à-dire un lieu d'accueil des pauvres. Et elle fondera une congrégation religieuse pour faire vivre cette providence. C'est la congrégation de Jésus-Marie, qui existe encore en face de la basilique de Fourvière. Elle a donc fondé ce qu'on appelle une œuvre de miséricorde envers les pauvres. Heureux ceux qui sont miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, j'ai remis ici le visage de Carlo Acutis brièvement, né en 1991. Il découvre la foi, il est dans une famille non-croyante, par une jeune fille au père qui est polonaise. Il a une grande dévotion pour l'Eucharistie et pour Marie. Il fait le siège de ses parents pour faire sa première communion. Il l'obtient à 7 ans. Et à partir de sa première communion, il va à la messe tous les jours. Il dit le chapelet tous les jours, à 7 ans, ça va. Et il se confesse une fois par mois. Adolescent, il s'intéresse à l'informatique, il s'intéresse aussi aux miracles eucharistiques dans le monde entier. Il en a recensé 43, je crois. Il fait travailler toute sa famille pour créer une exposition qui tourne dans le monde entier encore aujourd'hui, alors qu'il a 14 ans. Heureux les cœurs purs. Et à 15 ans, il meurt d'une leucémie foudroyante. Son corps, comme vous le savez, est conservé intégralement à Assise, on peut le voir aujourd'hui. Et il a été canonisé par le pape au mois de septembre. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, je pensais à Pauline-Marie Jaricot, née juste avant la Révolution, pendant la Révolution, 1799. À 16 ans, elle fait un vœu de chasteté. À 17 ans, elle entend une prédication incroyable de l'abbé Wurtz sur la vanité. Elle se convertit, elle renonce à tous ses attraits, ses bijoux, ses belles robes. À 20 ans, elle fonde un système de collecte pour les missions. Ça donnera l'œuvre pontificale missionnaire qui existe aujourd'hui grâce à elle. À 23 ans, elle écrit un ouvrage pour expliquer aux prêtres comment bien célébrer la messe. 23 ans, bon. Et quand elle a 32 ans, il éclate à Lyon ce qu'on appelle la révolte des canuts. La révolte des canuts, c'est-à-dire des ouvriers soyeux qui ont des conditions de vie absolument épuisantes. Ils travaillent 12, 13, 14 heures par jour. Ils sont payés à coups de lance-pierre. Il se trouve que les parents de Pauline sont soyeux. Ils embauchent des canuts. Et alors elle est écœurée par ce qu'on fait subir à ces ouvriers, ces ouvrières, et elle décide de mettre tout ce qu'elle peut en œuvre pour créer des entreprises qui respectent les personnes. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, venez ici le 14 novembre prochain. Il y aura l'inauguration d'une belle statue, d'une très belle statue. Et puis on écoutera des paroles de Pauline qui seront proclamées par une comédienne et illustrées par un musicien. Ça va être magnifique. Venez, 14 novembre. Et je termine. Heureux les persécuter pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Sur quel fondement l'église de Lyon s'est construite? Sur quelle fondation l'église Saint-Nizier a été construite? Dans la crypte, on fait mémoire de qui? Des martyrs de Lyon, 177. Sanctus, un des chrétiens de l'époque, est interrogé par le gouverneur. On lui demande son nom, je suis chrétien. Son statut social, libre ou esclave, je suis chrétien. Sa cité, je suis chrétien. Toutes les questions, il répond, je suis chrétien. Il est torturé. La seule chose qu'il dit, c'est, je suis chrétien. C'est son identité. Il y a une petite blondine, on ne sait pas si elle a 12, 13, 14, 15 ans. Elle est esclave. Sa maîtresse, qui est une chrétienne, dit, sous la persécution, elle ne tiendra pas. Elle est trop fragile. Et c'est elle qui va encourager ses frères dans l'arène, l'amphithéâtre des Trois Gaules, jusqu'au bout. Et tellement bien que les frères voyaient en elle le Christ crucifié quand elle est attachée à son poteau. Fragilité. Heureux. Les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Allez lire la lettre qu'on a sur les martyrs de Lyon, lettre authentique qu'on a. C'est à la fois l'horreur et en même temps le ciel sur terre. Ils sont dans une joie et ils voient l'action de l'Esprit-Saint au milieu d'eux. Magnifique, texte extraordinaire. Voilà, frères et sœurs. Ces frères et sœurs nous montrent que les béatitudes, on peut les vivre. D'ailleurs, Pierre Giorgio Frassati, dont le portrait est là, Jean-Paul II disait de lui, c'est l'homme des béatitudes. Et ce qui me frappe, c'est que dans toutes ces histoires, ce sont des hommes et des femmes qui sont fragiles, qui sont pauvres, mais qui se sont laissés toucher par l'amour de Dieu, manifesté en Jésus, par la miséricorde de Dieu, et qui ont décidé de l'aimer jusqu'au bout, en réponse à cet amour de celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Et alors ils ont reçu la grâce de l'Esprit-Saint, de vivre de ces béatitudes dans la paix et dans la joie. Frères et sœurs, puissions-nous nous aussi, à leur suite, entrer dans les béatitudes. Prenez-en une, écoutez-la, prenez une vie de saint, lisez-la, pour que nous puissions ensemble avancer dans ce chemin de sainteté que l'Esprit-Saint nous ouvre avec l'intercession des saints. Amen.